Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Il n'est pas facile pour un handicapé de s'affirmer dans les affaires ou dans les secteurs professionnels. Cette catégorie de personnes est souvent marginalisée. Les écoles spécialisées pour leur formation et les outils pouvant leur permettre de s'intégrer font aussi défaut dans bon nombre des provinces de la République. Alors comment, quel est le rôle de l'État dans l'intégration socio-économique et professionnelle des handicapés? On en parle aujourd'hui avec notre invitée, Madame Alice Mirimo, directeur générale du Fonds national des promotions sociales, FNPES. En sigle, madame, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, dites-nous, quel est le rôle de l'État dans l'intégration socio-économique et professionnelle des handicapés?
Le rôle de l'État est primordial, parce que si c'est l'État qui donne le ton, c'est l'État qui définit les politiques, c'est l'État qui fait le suivi, et c'est l'État qui finance. Parce que même quand les bailleurs de fonds donnent l'argent, c'est parce que l'État a demandé. Et sur cette question, donc, j'ai tenu à venir donner une parole d'espoir à nos compatriotes vivant avec handicap et aussi à toute notre population tout entière. Notre pays a pris les choses en main depuis 2010, quand le chef de l'État avait déclaré l'année 2010 année du social. Le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, qui est au fait le ministère qui coordonne l'action sociale et humanitaire dans notre pays, a présenté à ce temps-là sa feuille de route. Et parmi les éléments de cette feuille de route, c'était d'organiser la réinsertion socio-économique et professionnelle des personnes vulnérables en général. Les personnes handicapées, c'est une de catégories des personnes vulnérables, parce qu'il y en a d'autres. Il y a des jeunes désœuvrés, il y a les enfants de la rue, les vieillards, toutes ces personnes abandonnées, sans ressources, qui ne savent pas où aller, à quel sens se vouer. Toutes ces personnes sont des personnes vulnérables. Et là, nous allons insister sur la partie concernant les personnes avec handicap, parce que c'est surtout, il y a une feuille de route spécifique pour elles. Et cela a commencé aussi en 2010, hein, le 3 décembre 2010, il y avait eu la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées et le gouvernement a décidé d'aborder cette question de leur insertion socio-économique et professionnelle sur trois axes importants qui ont été des défis pour nous depuis 2010. Il s'agissait notamment d'organiser le cadre juridique.
Parce que sans cadre juridique, il sera difficile d'intervenir.
Effectivement.
Oui. Et là, aujourd'hui, on a ces cadres juridiques.
Effectivement. Il y a ces cadres juridiques, bien qu'il manque encore la loi organique qui traîne encore au Parlement. Mais on a déjà des grandes avancées. Parce que déjà, je dois dire ici que la constitution de notre pays, la constitution de 2006, a fait des avancées significatives en consacrant déjà à l'article 49, en donnant l'obligation à l'État d'avoir une loi organique qui définit et qui donne des principes par rapport à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Dans cet article, la participation même politique est exigée parce que il est même dit que l'État a le devoir d'assurer la représentation des personnes handicapées dans les institutions de la République, tant au niveau national, provincial que local. Alors, nous avions donc commencé le premier défi, c'était d'avoir cette loi organique. Et là, il y a une députée nationale qui l'avait d'ailleurs initiée au niveau du Parlement et le gouvernement a participé à son élaboration. J'étais d'ailleurs recommandée au niveau par le gouvernement, au niveau du Parlement, pour faire le suivi de cette loi organique. Qu'à cela ne tienne, même si elle traîne encore au Parlement, mais le chef de l'État a fait avancer le pays dans les instances au niveau international. Et c'était pour le deuxième défi, qui était d'adhérer à la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. C'est au fait le grand arsenal juridique international en faveur de nos compatriotes. Et au stade actuel,
la Convention internationale des droits, c'est ça?
Oui, relative aux droits des personnes handicapées. Et au moment où je vous parle, nous, pour nous, nous avons une bonne nouvelle parce que Le chef de l'État a permis au pays d'accéder à toutes les obligations nécessaires en rapport avec cette convention pour qu'elle soit en œuvre au pays.
Alors, quelles sont les grandes lignes de cette convention et les grandes lignes qui sont déjà mises en œuvre chez nous ici?
Oui, donc j'ai dit d'abord qu'en 2013, je disais que le chef de l'État a promulgué la loi portant adhésion de notre pays à cette convention. Mmh. Et en septembre 2015, il a signé l'instrument de ratification de notre pays à cette convention. Donc, elle est en principe en vigueur chez nous.
Qu'est-ce qu'elle prévoit?
Cette convention prévoit, au fait, les principes fondamentaux, les principes généraux, les obligations des États vis-à-vis des personnes handicapées.
Quelles sont ces obligations, par exemple? Citez-nous quelques obligations.
Ok. Ces obligations d'abord, les principes sont au niveau de l'article 3 de la convention, qui demande à tous les États d'assurer le respect de la dignité intersèque de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix et de l'indépendance des personnes handicapées. La non-discrimination, la participation et l'intégration pleine et effective à la société. Le respect de la différence et l'acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l'humanité. L'égalité des chances, l'accessibilité, l'égalité entre hommes et femmes. Les femmes handicapées ont aussi les mêmes droits que les hommes. Le respect du développement des capacités de l'enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité. Et pour les obligations, les États parties doivent garantir et promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination aucune qui serait fondée sur le handicap.
Alors, Madame Alice, aujourd'hui, si on essaie de faire un état des lieux à travers le pays, à Kinshasa et dans d'autres provinces, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'État facilite l'intégration socio-économique et professionnelle de ces personnes?
Votre question me permet d'introduire le troisième défi que nous avions. C'était de définir le cadre de programmation et de programmation stratégique des actions concrètes pour nos compatriotes. Et évidemment, parce qu'on devait respecter les standards internationaux pour les planifications stratégiques, cela nous a pris malheureusement 5 ans pour arriver à avoir un plan stratégique quinquennal de protection, de promotion de nos compatriotes. Mais je me réjouis aujourd'hui, c'est quand nous avons cet outil aujourd'hui. Et le Fonds national de promotion et de services sociaux a été donc désigné par le gouvernement pour assurer le suivi et l'appui à la mise en œuvre des actions qui sont dans ce plan. Et ce document important a été validé par les personnes handicapées elles-mêmes, d'ailleurs.
Lors de la table ronde des États généraux
qui a eu lieu assez dernièrement.
Alors, quelles sont les grandes lignes de ces documents ou du travail qui a été fait?
Ok. D'abord, je dois signaler que ces plans stratégiques et la réponse aux besoins qui ont été identifiés lors de la collecte des données.
Quels sont ces besoins?
C'est l'accès à l'emploi, l'accès à la protection sociale, l'accès à la vie digne, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'exercice même de la vie politique. Et nous avons identifié des actions par rapport à chacun de ces domaines. Même pour l'entrepreneuriat de personnes handicapées, nous devons promouvoir leur entrepreneuriat, l'entrepreneuriat féminin.
Mais pourquoi on n'arrive pas toujours à promouvoir leurs droits? Parce que dans la société aujourd'hui, ces personnes sont toujours marginalisées.
Il y a toujours un début à tout. En fait, je dois avouer que pendant longtemps, il y a eu beaucoup de tâtonnements aussi. Mais comme nous avons notre plan stratégique élaboré avec les personnes handicapées elles-mêmes, parce que ce processus des états généraux, je vous ai dit, ça a fait 5 ans, donc on l'a pas fait nous-mêmes. Ils ont été là, ils ont exprimé leurs besoins. Nous avons fait cette collecte des données au niveau des provinces, ils se sont exprimés. Et pendant que nous avons fait notre table ronde, nous nous sommes convenus sur un chronogramme de réalisation des activités. Et je vous informe déjà que d'ici un mois, nous allons commencer les activités de terrain. Et les activités qui sont plus urgentes pour nous, c'est tout d'abord la sensibilisation, la cartographie des organisations de personnes handicapées, la cartographie des interventions à faire directement pour eux, Parce que une chose qui était très encourageante d'ailleurs pendant les états généraux, c'est que au niveau du Fonds national de pension et de service social, l'État a mis en place la Caisse de solidarité nationale. Et il a été convenu lors de la table ronde qu'une quotité des fonds collectés au niveau de cette Caisse nationale de solidarité nationale devra appuyer les initiatives et les œuvres de personnes handicapées. En fait, c'est cet outil qui manquait pendant longtemps. Ils ont beaucoup d'initiatives, mais ces initiatives restaient dans les tiroirs. Mais aujourd'hui, avec le Fonds national de promotion et de service social, nous allons cartographier toutes ces initiatives. Nous allons cartographier tous leurs intervenants, les ONG, les sociétés. S'il y a des sociétés aujourd'hui qui font la promotion de personnes handicapées, nous allons les identifier et nous allons faire concrètement de l'aide directe et de l'appui direct aux initiatives des personnes handicapées.
Bien, nous avons ici la réaction de PV, il s'appelle PK Moussa. Il dit « Je suis une personne handicapée, mais j'ai réussi à m'imposer dans l'enseignement avec mon diplôme d'études supérieures en pédagogie. Le problème est que notre gouvernement et d'autres partenaires de l'enseignement devraient nous aider à surmonter et surtout nous accompagner à réaliser nos rêves. Malheureusement, il n'y a aucun soutien, Madame Alice. »
Je reviens sur la Caisse de solidarité nationale. L'avantage au niveau de cette caisse, c'est que nous allons collecter les fonds ensemble avec elle, avec les personnes handicapées. Nous allons programmer ensemble cette aide directe et cet appui. Et pour nous, l'outil, ce plan stratégique manquait. Parce que si nous aussi, on commence à appuyer en désordre sans tenir compte des principes qui doivent être observés dans l'appui, ou dans l'aide directe.
Mais comment va fonctionner cette caisse dès qu'une personne handicapée a un projet, par exemple, économique ou d'une entreprise, ou le financier, il peut obtenir facilement un financement?
Toute idée de projet sera acceptée d'abord. Mmh. Toute idée de projet. Parce que on doit avouer que beaucoup d'entre nous ne savent pas faire le projet. Mais dès que vous avez une idée de projet, sous forme de termes de référence et tout, nous allons mettre en place un mécanisme d'accompagnement d'abord dans l'élaboration de projet. Parce qu'il faut que l'idée du projet devienne un projet bancable. Mmh. Il faut que ce projet bancable devienne un projet réalisable et qui peut être chiffré et pour lequel la personne qui a initié le projet peut se retrouver. Donc, nous sommes en train de faire une étude de faisabilité avec une société de la place pour nous aider à organiser la microfinance sociale. Et nous allons prioriser les projets venant des personnes handicapées parce que je dois d'ailleurs vous dire que durant la table ronde, nous avons vu leurs talents. Nous avons vu les personnes albinos qui ont montré leurs talents. Parmi eux, il y a des sportifs, il y a aussi des créateurs, des œuvres de génie et tout ça.
Nous avons vu des peintres. Il y a même un orchestre
des handicapés. Voilà, ils ont chanté l'hymne d'ailleurs de personnes des états généraux. Mm-hmm. Et nous avons découvert beaucoup de talents, des peintres. Nous avons été avec, par exemple, la dame qui fait la peinture avec sa bouche, l'autre qui fait la peinture avec ses pieds. Et la soirée dont je parle, là, qui va bientôt être organisée, ça sera une soirée de promotion de tous ces talents. Et les gens qui sont prêts à produire, à faire des productions des talents, ils sont les bienvenus. Le fonds ne va pas s'enfermer seul sur cet appui. Mmh. C'est une question transversale et nous sommes ouverts à toute initiative allant dans le sens de promouvoir les personnes handicapées.
Madame, on va accueillir quelques auditeurs. Nassour Moussa nous appelle de Kindou et Clément Ndaye de Kananga. Nous recevons aujourd'hui Madame Alice Mirimo, directrice générale du Fonds national des promotions et des services sociaux, FNPES en sigle. Alors, pour participer, appelez au 081-890-63-94.
Votre connexion Internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio-Okapi.net, à votre service.
Quel est le rôle de l'État dans l'intégration socio-économique et professionnelle des handicapés? Nassour Moussa de Kindou et Clément Daye de Kananga, bonjour. On commence avec vous, Nassour. Quelle est votre question?
Oui, bonjour Jody, bonjour aussi à l'invité. Je suis vraiment ravi par rapport à ce sujet qui est crucial. Je vais juste poser deux préoccupations à l'invité. La première préoccupation, quels sont les moyens qu'une personne handicapée peut faire pour arriver à ne pas être marginalisée? Et la seconde préoccupation demande s'il y a des privilèges encore d'embauche, par exemple, d'une affaire économique ou professionnelle, ou bien les handicaps subissent aussi les mêmes conditions que celles qui ne sont pas les handicapés. C'est ça vraiment mes deux préoccupations par rapport à la thématique que je vous remercie.
Bien. Clément Daï de Kananga, bonjour. Quelle est votre question?
Pour la qualité de ma voix aujourd'hui d'ailleurs.
Oui, même la qualité du son n'est pas le son. Clément, désolé, on vous entend difficilement. Peut-être que vous pouvez utiliser un autre téléphone ou nous rappeler plus tard, parce que là, on vous entend presque pas. Madame Mirimou, qu'est-ce que vous pouvez dire en assort?
Oui, j'aimerais d'abord rassurer Nestor. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que j'ai parlé vite. Pour l'État, il fallait d'abord organiser le cadre juridique et désigner un organe précis pour le suivi et pour organiser l'appui. Et là-dessus, j'aimerais rassurer d'abord tout le monde. La question du handicap dans notre pays, c'est une question transversale. C'est-à-dire, on en parle au ministère de l'Emploi, on en parle, c'est même bien indiqué dans le Code du travail, on en parle au ministère des infrastructures, de transport, de la santé, de l'éducation. Mais il s'est fait qu'au niveau du gouvernement, c'est le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité internationale, qui assure la coordination de l'action du gouvernement en ce qui concerne la question du handicap. Et au niveau du ministère des Affaires sociales, il y a la structure qu'on appelle Fonds national de promotion et des services sociaux. Au sein de cette structure, le gouvernement y a institué la Caisse de solidarité nationale pour organiser l'aide directe à nos compatriotes et des appuis directs.
Ils peuvent déjà amener les dossiers?
Ils peuvent déjà amener des dossiers parce que, comme je vous ai dit, après la table ronde, comme nous avons tout un axe par rapport à la promotion de l'entrepreneuriat des personnes handicapées, les mécanismes sont en train d'être mis en place. Je vous ai dit qu'une étude de faisabilité est en train d'aller vers sa phase finale pour organiser la microfinance sociale. Et nous allons commencer déjà avec les initiatives des personnes handicapées. Comment ils peuvent faire pour ne pas être marginalisés? Ici, j'en appelle aux personnes handicapées elles-mêmes. Elles doivent se sentir concernées aussi. Et cette question d'ailleurs a été débattue lors de la table ronde. Comment elles peuvent aussi se sentir concernées? C'est juste changer d'attitude. Ne plus se considérer comme victime, mais se positionner comme acteur. Comme acteur. Et là, j'insiste. Je vais d'ailleurs donner l'exemple de la participation politique. Aujourd'hui, on peut penser que les personnes handicapées ne sont pas intéressées à la politique. Mais non, ils sont intéressés à la politique. Et moi, je leur dis souvent, c'est vrai, vous pouvez créer des ONG et tout ça, mais les ONG ne sont pas là pour la politique. La société civile, en réalité, n'est pas faite pour la politique, oui, bien qu'on en a, on en donne l'impression à la politique. Oui. Alors, si on a l'ambition de faire la politique, même si on est personne handicapée, la loi n'est pas discriminatoire, hein. Toute
elle
personne peut créer un parti
pas,
politique,
oui.
Hein. Ils peuvent adhérer à des partis politiques, hein. Ils peuvent aussi se faire enrôler, ils peuvent aussi être candidats. D'ailleurs, pendant la table ronde, nous avons eu le témoignage de l'honorable Ilunga, qui est député. Il vient de connaître deux mandats, 2006-2011. Mmh. Il est député, il a été élu, il a une base. Donc, il faut que cette position, et ça, je réponds directement à notre auditeur, il faut quitter cette position de victime. Et c'est quand on a l'attitude de victime qu'on fait la mendicité. Parce qu'on croit qu'il faut attendre que quelqu'un d'autre... Non, il faut agir, il faut être acteur, il faut participer.
Mais
il
vous
faut
avez dit que ces intégrer. Personnes handicapées ont plein de talents.
Beaucoup de talents. Ils sont très intelligents. Je vous assure que pendant les 5 ans ici, j'ai travaillé avec elles. J'ai connu leur diversité. Parmi elles, il y avait des experts qui ont produit des documents importants au niveau du fonds. Parmi eux, il y a ceux qui sont même venus. Ils étaient tous dans l'organisation des États généraux. Il y a des talents. Il y a des talents. Je n'étais même pas complexée. Je ne voyais même pas qu'il y avait une différence. Mmh. C'est peut-être la situation physique seulement. Mais pour tout le reste, on a travaillé dans l'égalité. Et donc, il n'y a pas assez comporté
donc
comme...
Donc, ils doivent eux-mêmes déjà sortir de cette...
Oui, pas être dans l'attentisme. Oui. Ne pas croire que c'est les autres qui vont amener la solution. Mais apporter la solution. D'ailleurs, je dois même reconnaître ça aussi. L'initiative même des États généraux, ce sont les personnes handicapées elles-mêmes qui l'avaient demandé au gouvernement. Et quand le gouvernement a pris les choses en main, elles ont participé et nous avons eu des résultats. Et je suis persuadée que nous allons encore avoir d'autres résultats beaucoup plus probants.
Voilà, nous allons accueillir deux autres auditeurs, Fabien Dekalemi et Adjima Mouti Dekindou. Fabien, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Je suis Camille Dekalemi.
Pardon?
C'est Camille Dekalemi.
Camille Dekalemi. Voilà, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Camille?
Moi, je voulais d'abord, je vous salue d'abord, monsieur Jody, je salue tous les invités.
Oui, merci, on vous écoute.
C'est-à-dire, moi, je voulais d'abord que, puisque moi je suis aveugle, dans l'église, je joue le synthétiseur. Je joue la guitare. C'est un talent aussi dans une église.
Mmh.
Alors, comme ça, je voulais, pour bien l'ordinateur, est-ce que vraiment l'invité ne peut pas m'aider? Comment est-ce que je peux évoluer avec l'ordinateur?
Et vous dites que vous voulez apprendre. Vous voulez apprendre à.
Que je puisse avoir un travail. Puisque moi je suis aveugle. Je reste seulement comme ça. Je n'ai pas le travail. J'ai une famille. Bon, je voulais avoir un petit travail pour que je puisse prendre soin aussi de ma famille. Alors, je voulais apprendre maintenant l'ordinateur dans un bureau, ou bien la machine à écrire. Est-ce que cela, l'invité ne peut pas m'aider avec mon talent?
D'accord, merci à Camille Dekalemi. Adji Mahamouti Dekindou, bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, bonjour, je dis, avant de poser la petite question, je voulais d'abord donner une petite contribution par rapport au sujet d'aujourd'hui. Vous voyez que la personne handicapée, c'est elle-même qui se marginalise. Parce que nous voyons, il y a des celles-là qui sont aujourd'hui dans des postes et ils travaillent beaucoup et ils rendent beaucoup plus de services à l'État. Mais vous allez voir un handicapé, il y a même des radios communautaires ici locales, il y a même des émissions organisées par les handicapés. Même les handicapés interpellent les autres qui se marginalisent et qui se laissent faire. Ce n'est pas l'état physique de quelqu'un qui peut pousser ces derniers à pouvoir s'habiller mal et il se voit aussi comme il n'est pas aussi, même s'il a étudié, mais il se laisse faire. Voilà comment est-ce que les handicapés eux-mêmes se négligent ou soit se marginalisent dans la société. Nous avons des enseignants qui sont handicapés et ils rendent des services. Nous avons aussi les honorables qui sont dans des assemblées provinciales, ils rendent aussi des services. Nous avons aussi des grandes personnalités, voire même quand on était en GD à l'université. On avait vu même, le gouverneur avait nommé un handicapé qui étudiait à l'université, à la faculté de Kindu. Il a été aussi nommé aussi.
Mmh.
Voilà une petite contribution. Mais pour terminer, je voulais poser une question à l'invité. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre une personne handicapée et une personne vivant avec l'handicap?
D'accord, merci. Alors revenons à la question de Camille. C'est une personne aveugle. Il dit qu'il joue à la guitare et au clavier à l'église. Il veut apprendre l'ordinateur. Comment est-ce que le fond peut l'aider à trouver du travail, hein, parce qu'il dit qu'il a une famille aussi.
Ouais.
À prendre en charge.
En fait, cela me permet de revenir sur cette table ronde, parce que ce plan stratégique dont j'ai parlé, qui est notre véhicule maintenant,
votre Caneva.
Voilà. Mmh. Il y a 5 axes stratégiques qui ont été définis dans ce plan stratégique, et cela est fondé sur l'inclusion sociale. Donc, aujourd'hui, le gouvernement, le chef de l'État, ils ont décidé que le pays aille vers le développement inclusif en mettant un accent particulier sur les personnes handicapées. Et donc, parmi ces actes, il y a la partie développer les piliers de l'inclusion sociale. Parce que là, il parle des aspects des technologies. Il faut qu'on puisse prendre aussi une technologie qui est adaptée à leur situation. Il y a aujourd'hui des téléphones qui ont maintenant des fonctionnalités d'écriture braille dedans.
Mmh.
Nous devons développer cet axe-là de manière que nos compatriotes qui sont en situation de surdité, d'aveugle et tout ça, puissent aussi accéder à la technologie. Et sous d'autres cieux, ça existe déjà. Au niveau de ces usines, ils en fabriquent. Et donc, pour moi, je ne peux que donner une parole.
Les cultures.
Oui, Braille. J'ai vu ça en Belgique.
Okay.
Et donc, ça existe. Et nous avons donc cette ambition d'accéder à cette technologie aussi pour eux. L'inclusion sociale signifie quoi? C'est que désormais, quand le pays met en place des politiques, quand le pays fait l'amélioration des climats d'affaires, il faut que nous puissions intégrer parmi les aspects pour alléger même certaines taxes par rapport à ceux qui vont amener toutes ces avancées technologiques chez nous.
Mmh. Et on peut leur accorder des exonérations.
Moi, je donne un message d'espoir à l'auditeur pour dire au moins on a commencé. Et ça fait partie des aspects de le cheval de bataille pour le fond. Je dois lui dire que je suis en contact avec une agence connue au niveau de la Wallonie-Bruxelles où toutes ces technologies sont développées. Ils ont des techniques des aides à l'emploi. C'est vraiment une agence très développée par rapport à l'amélioration et à la protection des personnes handicapées. Et donc, il peut être déjà rassuré, c'est que c'est prévu maintenant et nous allons nous battre ensemble pour que cela, nous puissions avoir aussi ces acquisitions, pourquoi pas des centres de formation adaptés pour les personnes handicapées. Nous allons aussi en avoir ça chez nous.
Voilà, bienvenue, nous appelle depuis ici Rouen. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, je dis Daniel Cachamon.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Je voulais tout simplement que l'invité m'éclaircisse. Que prévoit la loi congolaise sur les personnes qui cherchent à discriminer les personnes vivantes avec l'handicap ou les handicapés?
Madame Alice.
J'ai dit tantôt qu'il y a une loi organique qui traîne au Parlement et dans cette loi, on a prévu la partie sanction. Mais aussi, je dois vous dire que la situation des personnes handicapées se retrouve aussi dans tout l'arsenal juridique de notre pays. Toutes les questions de respect des droits de l'homme sont aussi appliquées. Il y a le code pénal qui punit un certain nombre d'infractions dans le sens de la discrimination, de torture et consorts. Donc, quand quelqu'un est lésé, vous soyez personne handicapée ou quoi, quand vous êtes lésé dans votre droit, il faut dénoncer. Sans la dénonciation, le parquet ne saura pas que vous avez été lésé. Donc, nous revenons à ce que nous avons dit tantôt, que chacun se sente d'abord concerné, que chacun se comporte en acteur et participe aussi à la promotion et à la protection. Donc la loi du pays protège tous les citoyens au même titre, il n'y a pas de discrimination. Mmh. Déjà la constitution réaffirme tous ces droits fondamentaux.
Alors un auditeur a demandé quelle est la différence entre une personne handicapée et une personne vivant avec
ça c'est juste un problème de concept. C'est un problème de concept et ça sera peut-être résolu dans la loi organique, mais c'est déjà résolu dans la convention internationale relative aux droits de personnes handicapées qui définit déjà la personne handicapée. Je peux lire cette définition. Là, cette convention dit que par personne handicapée, on attend les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles, durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Je vous donne par exemple l'exemple aujourd'hui, parce que au niveau de la convention, il est exigé que les États puissent aussi faire des aménagements raisonnables. Mmh. C'est l'accessibilité, par exemple, aux étages, aux immeubles.
Oui, on voit aujourd'hui même dans certains milieux des toilettes, oui. On a prévu des latrines pour les personnes handicapées.
Et notre pays est tenu maintenant de suivre ça, dès lors qu'il est membre maintenant de cette, il est à partie de cette convention. Nous devons y veiller. Et ça fait partie des sujets qui ont été aussi débattus lors de la table ronde. Les ministères de transport et les ministères d'infrastructure doivent tenir compte aussi de ça. Quand ils arrangent les routes, quand ils arrangent des bâtiments publics. Et tous les bâtiments publics qui existent aujourd'hui doivent en tenir compte. Mmh. Nous avons apprécié au niveau du bâtiment du gouvernement, il y a des rampes, il y a moyen d'accéder aussi avec son vélo. Donc, il faut que ces efforts se multiplient. Et ce qui est intéressant avec l'initiative qui est au niveau du ministère des Affaires sociales, et là, je salue le courage de Madame la ministre des Affaires sociales, c'est que nous avons pris la question à cœur. Nous avons désormais des solutions. Avant, ce n'était pas ça. Avant, c'était vraiment le tâtonnement total. Aujourd'hui, nous avons des solutions. Nous avons un plan stratégique qui est pour nous le tableau de bord. Et nous avons la participation effective des personnes handicapées elles-mêmes, parce qu'elles sont organisées à travers leurs associations. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit que pour moi, je suis venue donner une parole d'espoir et un appel à l'action, que nous puissions nous tenir main dans la main que nous puissions que d'abord oublier les divisions. L'État est disposé, l'État veut les accompagner et les moyens sont en train d'être mis en œuvre pour ça. Nous sommes en train de préparer le budget 2017 et nous allons inscrire une bonne partie des actions. D'ailleurs, l'État a manifesté déjà sa volonté parce que tout le processus des États généraux, la table ronde qui a été organisée avec les moyens uniquement de l'État congolais. Donc la volonté est là déjà et les moyens seront mis en place. Mais si nous n'avons pas leur participation effective, s'ils ne s'intéressent pas, bon, ça risque de passer comme ça. Mais ici, j'en appelle à leur participation effective, à oublier un peu toutes ces divisions qui ont précédé dans les opinions.
Pourquoi les associations des handicapés sont divisées? Qu'est-ce qui les divise souvent?
Bon, vous savez, moi, quand je parle de la division, c'est les problèmes des intérêts, hein, des partages d'intérêts. Hein.
Oui.
Mais comme l'État s'est
levé... Oublier les intérêts personnels.
Voilà, privilégier les intérêts, l'intérêt général, et oui. Voir la promotion dans son ensemble. Mmh. Je pense que si nous partons sur cette base-là, avec le Fonds national de promotion et de services sociaux, qui est maintenant l'organe devant faire l'interface pour eux, pour obtenir l'attention particulière du gouvernement et tout l'appui nécessaire dont ils ont besoin, je pense que nous allons faire des grandes choses dans très peu de temps.
Alors, nous avons la réaction de Emmanuel Ouassoulou depuis Bukavu. Il dit « La législation avait classifié les personnes vivant avec handicap parmi les personnes incapables. Dans cette catégorie, on trouve même les adolescents, les vieillards, les dépassés mentaux et les infirmes physiques, vu qu'elles ont une incapacité, soit physique ou mentale, d'exercer une activité. À mon avis, je trouve impossible d'intégrer ces personnes dans les activités économiques et professionnelles, étant donné que le travail demande une force. En même temps, ça demande la force physique et mentale. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Emmanuel ?
Bon, déjà, je vois qu'Emmanuel a déjà des préjugés en lui, et déjà une certaine discrimination. Nous partons du principe que les personnes handicapées sont capables, parce qu'ils n'ont qu'un problème qui peut être au niveau des yeux, de la main, du bras et tout ça. Mais ils sont capables parce qu'ils ont l'intelligence nécessaire pour agir. Seulement, il est question d'avoir des mécanismes spécifiques pour permettre leur intégration. Et si nous faisons cet effort ensemble de mettre en application cette convention, déjà, je dois vous dire que pendant la table ronde, il a aussi été question de valider ensemble le mécanisme de suivi de l'application de cette convention. Mmh. L'État est tenu, en tout cas, d'appliquer à la lettre cette convention, et de faire en sorte que ces gens de discrimination ne puissent pas avoir lieu.
Donc ces gens ne sont pas incapables.
Ils sont pas incapables.
D'après lui, c'est la loi qui aurait dit ça. Est-ce que c'est vrai?
Non, non, non. La loi ne les a pas classés parmi les incapables. Seulement, la loi reconnaît leur vulnérabilité. Et au niveau du Code du travail, il y a tout un chapitre par rapport à l'emploi pour personnes handicapées. Mais ce n'est pas qu'ils sont incapables. Par exemple, je veux parler des aides à l'emploi. Il y a des emplois adaptés aux personnes handicapées. On ne peut pas les soumettre à des emplois qui les soumettent à des efforts au-delà de ce qu'ils peuvent. Et ça, c'est normal. Mais ça ne signifie pas qu'ils sont incapables, non. Et nous devons avoir maintenant des structures d'accompagnement de tous ces mécanismes. Il y a même des structures qui existent, parce que comme aux affaires sociales, il y a des structures d'accompagnement des personnes handicapées qui existent. Mais ce sont des structures que nous allons renforcer. C'est des structures qu'on va mettre dans une gestion de technologie adaptée. Et tout ça est prévu.
Donc, ce sont des structures qui n'ont pas de moyens et qui sont
plus
dynamiques.
Ils n'ont pas de moyens, oui, mais nous allons leur donner des moyens. C'est au fait pour ça que le gouvernement a décidé que le Fonds national de promotion des services sociaux joue ce rôle d'interface, parce qu'il manquait cette interface-là. Du moins, il existait, mais il n'y avait pas cette efficacité. Et aujourd'hui, je peux rassurer tout le monde que l'efficacité est là. Le dynamisme est là. Mais nous allons le faire ensemble. Nous ne le ferons pas seuls.
D'accord. Trésor est à Kisangani, Israël, à Kinshasa. Trésor, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour. Moi, je voulais juste vous parler par rapport à la manque de confiance que la personne handicapée elle-même est en train de porter. Vous savez, aujourd'hui, dans le siècle d'aujourd'hui, ce n'est pas la force physique qui compte, c'est plus le mental. Ça part en 50-50, le deux. Et alors, il faut attaquer le mal par les racines. Vous savez que dans la plupart de nos familles africaines ici, quand on a trois enfants par exemple, et il y a un enfant handicapé parmi les trois enfants, vous verrez. Les deux autres qui ne sont pas handicapés, ils iront à l'université, ils feront l'école normale. Et l'enfant handicapé, on l'enverra dans le centre ou dans le foyer, aller en prendre la cordonnerie, à l'ensemble des petits métiers et je ne suis pas d'accord, moi. Bon, peut-être par rapport à ce que la dame est en train de dire, qu'il faut faire des caisses et ainsi de suite, c'est l'appui du gouvernement et qu'on sort. Je crois, à mon avis, une personne ayant des facultés mentales, un peu de facultés mentales complètes, je ne vois pas dans cette personne-là un handicap, selon moi. Ça ne me concerne que moi.
D'accord.
Il y a des histoires plus intelligentes que les handicapés peuvent faire que les personnes normales ne peuvent pas
alors,
faire.
Alors, présent,
mais je condamne vraiment envoyer les enfants handicapés. Oui.
Là, par exemple, à Kisangani, vous avez des exemples des personnes handicapées qui ont émergé, par exemple, dans les affaires ou dans d'autres secteurs?
Si. Il y a l'exemple d'un célèbre avocat à Kisangani qui est handicapé, très célèbre et très compétent. Qui a fini en faculté de droit et qui est très compétent et très célèbre. Il y en a plus, il y en a vraiment beaucoup. On voit l'exemple même de Martin et Kanga. On voit Frère Patrick. C'est des gens qui ont émergé, bien qu'ils sont des handicapés. Ils peuvent faire ce que nous ne pouvons pas, nous, des personnes normaux. Donc, envoyer les enfants handicapés, moi, je crois qu'il faut les envoyer dans les écoles normales, qu'ils aillent apprendre tout ce que les autres apprennent, et non le petit métier, la cordonnerie, la menuiserie, ainsi de suite. Au moment où vous trouvez des handicapés plus intelligents, mais qui vont, le parent les envoie dans des foyers pour apprendre la cordonnerie. Vous voyez un peu.
D'accord, merci.
Et jusque-là.
Oui, merci, Trésor, ouais. On a compris. À Israël, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, quelle est votre question?
Merci pour la parole. C'est bien Israël Kabongo. Depuis la province de Kinshasa, je suis élève aveugle dans un collège catholique, précisément au collège Notre-Dame du Congo. Donc, je fais l'étude en intégration. Mon problème est celui-ci. J'allais poser une question à madame. Comment est-ce que l'État congolais, qu'est-ce que l'État congolais pense pour ce système d'éducation, l'étude en intégration? Donc, quel enfant handicapé peut étudier dans un établissement ordinaire? Parce que l'article 45 de notre Constitution précise bien que tout individu a le droit d'accéder dans un établissement public de son choix. Mais aujourd'hui, il y a une discrimination qui continue toujours à se faire remarquer. Moi, d'ailleurs, pour qu'on me reçoive dans cette... Quand j'ai quitté l'Institut National pour Aveugles pour aller là-bas au collège, c'était difficile pour qu'on m'accepte. Il fallait qu'il y ait des recommandations en recommandations. Mais quand est-ce que nous nous serons compris? Et quand on m'avait admis, et dès la première période, j'étais les premiers de la classe. Donc, j'étudie dans une salle de 45 élèves où tous sont valides, je suis le seul handicapé de vie non-voyant. Donc j'étudie avec le système de l'écriture braille, les professeurs me disent que j'écris, et lors d'une intervention, je dis que les professeurs, c'est que j'ai mis comme réponse.
Oui.
Mais chose qui nous choque un peu, jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas encore compris, donc on ne nous accepte pas presque partout, hein, surtout dans des écoles. Il y a plusieurs enfants handicapés qui restent jusqu'à aujourd'hui dans des maisons, coffrées, parce qu'ils ne sont pas acceptés dans la société. Donc, ce que nous pouvons demander à notre État, c'est de promouvoir aussi dans ce sens cette intégration. Et que madame nous dise un peu qu'est-ce qu'ils en pensent déjà de ces côtés-là.
D'accord, merci. Madame Alice Miremont.
Enfin, je vais juste me répéter. J'ai dit tantôt que nous sommes sur la voie de l'inclusion sociale. Et notre pays a déjà d'ailleurs des avancées sur la question de l'éducation nationale. Il y a une loi sur l'éducation nationale, où l'enseignement spécial y a été consacré. Et cela a des implications budgétaires importantes. Et je vous ai dit que le fait que le plan stratégique a été validé, c'était au cours de cet atelier national de haut niveau, la table ronde que nous avons fait le 2 jusqu'au 4 juin, avec la participation des gouverneurs des provinces, des vice-gouverneurs, des ministres provinciaux des affaires sociales, la participation du gouvernement représenté au plus haut niveau, c'était pour que le déclic du développement social, de l'inclusion sociale, puisse partir de la base vers le haut. Et je peux maintenant vous rassurer que l'État étant conscient de la question, qui demande une grande budgétisation, parce que l'enseignement spécial, comme lui-même l'a dit, demande que nous puissions laisser l'accès aux établissements publics ou privés à tous, mais que au niveau de chaque établissement, il y ait des outils spécifiques qui permettre à ces enfants...
Est-ce que c'est important de les envoyer dans des écoles spécialisées ou bien ils peuvent aussi aller dans les écoles ordinaires?
C'est ça le sens de cet enseignement, de le développement de l'enseignement spécial. Ils peuvent aller dans toutes les écoles, mais il faut juste doter ces écoles des outils appropriés, par exemple pour l'écriture braille, pour les enfants sourds, et ça demande une grande budgétisation. Et je suis en train de vous dire que nous préparons cette budgétisation-là. D'ailleurs, le ministre d'État, ministre du Budget, était avec nous pendant la table ronde. Il est conscient que la question demande une plus grande attention de l'État et une plus grande budgétisation, mais qu'il faut que ça soit dans une programmation globale de l'État. Et c'est cet effort qui a été fait.
Alors, on peut dire que dans le prochain budget,
il y a des lignes budgétaires qui vont être bien spécifiées par rapport à l'appui à toutes ces questions. Et ce qui est même intéressant, c'est que le fait que la question est transversale, c'est-à-dire au niveau du ministère de l'Éducation, parce que les PSP, l'enseignement supérieur, ils vont aussi voir comment en tenir compte dans leur budgétisation. Au niveau du ministère des Affaires sociales, parce que là, il y a l'alphabétisation des adultes, ils vont aussi en tenir compte. Au niveau du Fonds national, dans les interventions sociales, nous allons en tenir compte.
Oui.
Et moi, j'ai dit pendant les travaux, cette question demande une participation de tout le monde. Parce que, c'est vrai, on va faire la budgétisation, mais il faut aussi qu'il y ait la disponibilité de moyens. Il faut qu'il y ait la disponibilité des moyens.
Jusque-là, on n'a pas assez de moyens.
S'il n'y a pas toujours assez de moyens, ça sera compliqué. Voilà pourquoi cette caisse de solidarité est là, pour multiplier des sources de financement. Aujourd'hui, nous allons utiliser la stratégie de la responsabilité sociale des entreprises. Les sociétés doivent aussi contribuer. Tout le monde doit contribuer pour que nos compatriotes...
La caisse est déjà opérationnelle.
La caisse est opérationnelle.
Déjà, vous avez combien dans la caisse, si c'est pas un
secret? J'aurai peut-être l'occasion de le dire quand je vais arriver à collecter à tous les niveaux, parce que là, je suis en train de sensibiliser, de mobiliser le gouvernement d'abord, parce que le Fonds national a parmi ses bailleurs de fonds, d'abord l'État congolais, et puis la question... est en train d'être débattu avec les sociétés au niveau d'un comité de suivi de projet qui est au niveau du fonds avec la participation de toutes les parties prenantes. La question sera aussi débattue bientôt avec le ministère de Finances et le ministère des Affaires étrangères. Donc, j'aurai un jour l'occasion de dire à la communauté tout entière ce que nous avons maintenant au niveau de la caisse pour commencer les activités.
D'accord. Merci. On aura l'occasion de vous recevoir prochainement pour en savoir un peu plus. Merci, Madame Alice Mirimon. Je rappelle que vous êtes directrice.
C'est moi qui vous remercie.
Directrice générale du Fonds national des promotions et des services sociaux, FNPES. Bonne journée.
Merci beaucoup.